Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de l'heure du crime avec toute l'équipe, Perrine Suquet, Margot Agnès. Aujourd'hui c'est Sébastien Rocheron qui est aux manettes techniques de notre émission et à la une, on en disait un mot tout à l'heure juste avant les infos avec Christelle Rebière et Vincent Parisot. Jean-Paul Lecomte, celui que la presse avait appelé le tueur de la Somme, c'est une affaire qui a bouleversé, inquiété, fasciné également les habitants de ce département et de ce département de la Somme et au-delà toute la région de Picardie et au-delà encore évidemment tous ceux qui ont suivi cette affaire par l'intermédiaire de la presse nationale. La même année 2002, janvier, juillet, août, trois jeunes femmes, 24 ans, 19 ans, 18 ans, retrouvées assassinées, pour certaines violées, et la rumeur se répand comme une traînée de poudre, la psychose. Il y a un tueur en série qui sévit dans la Somme et on n'arrive pas à l'attraper. Cette affaire, comme je le disais, a beaucoup marqué les habitants, notamment de Picardie, qui sont nombreux, par l'intermédiaire d'RTL.fr, à nous demander régulièrement de mettre cette affaire à la une de l'émission. Ben voilà, c'est fait, c'est aujourd'hui. Et pour parler de ce dossier, vous savez qu'on cherche toujours à avoir avec nous ceux qui sont les meilleurs connaisseurs du dossier. Près de moi, Georges Charrière. Bonjour.
Bonjour Jacques.
Journaliste au Courrier Picard et j'allais dire pilier du Courrier Picard en ce qui concerne les affaires de faits divers et les affaires criminelles depuis la fin des années 80. Donc cette affaire, vous l'avez suivie de bout en bout?
Tout à fait, oui. Depuis le début de janvier pour Élodie Kulik jusqu'au procès de Lecomte à la fin et puis en passant par ce qui s'est passé pour Élodie Kulik, les rebondissements qui ont eu lieu depuis finalement assez peu de temps.
On va revenir à l'affaire Élodie Kulik dans un instant. Le temps de dire que l'autre grand connaisseur de ce dossier criminel, des deux crimes pour lesquels donc Jean-Paul Lecomte a été condamné à la prison à perpétuité, c'est le capitaine de gendarmerie Thierry Fouache. Il est maintenant en retraite, il sera en ligne tout à l'heure avec nous. C'est lui qui, le premier, a interrogé, parler avec Jean-Paul Lecomte alors que celui-ci n'était qu'un suspect parmi d'autres. Et puis, à la fin de l'émission, nous aurons en ligne Maître Sandrine Makarevitz, qui a été l'avocate et qui est toujours l'avocate de Jean-Paul Lecomte. Alors, Georges Charrière, un mot pour dire tout de suite que Jean-Paul Lecomte a été condamné, je viens de le rappeler, pour les meurtres de Patricia et de Christelle, pas pour Élodie Kulik, et pour cause, il était en prison à cette époque, il purgeait une peine de 18 ans de prison, et il allait être libéré quelques mois plus tard, en 2002.
Jean-Paul Lecomte est libéré en mai 2002, et bien évidemment, quand l'affaire Élodie Kulik éclate en janvier 2002, les gendarmes vont vérifier rapidement après où était Lecomte, et Lecomte était en prison, il n'avait pas de permission à l'époque, donc on est sûr qu'il n'est en aucun cas responsable de la mort, du viol et de la mort et de la torture d'Élodie Kulik.
Voilà, ce que ne savaient pas forcément ceux qui craignaient, qui lui attribuaient, quoi, finalement, sans le connaître encore, ce troisième meurtre. L'affaire Kulik n'est pas terminée, il y a eu de très gros rebondissements, grâce à un ADN intrafamilial, on va dire, on a trouvé le père de l'auteur, enfin d'un des auteurs en tout cas du meurtre d'Élodie Kulik, mais celui-ci était décédé. Il reste des personnes actuellement mises en examen dans cette affaire.
Absolument. Actuellement, il reste aujourd'hui une personne qui est mise en examen dans l'affaire d'Élodie Kulik. Il y a donc une première personne dont l'ADN est identifié grâce à une nouvelle technique qui est utilisée pour la première fois en France, dite de l'apparentement par ADN.
Voilà.
Où on trouve donc, dans le fichier, dans le FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, quelque chose qui ressemble beaucoup à l'ADN qui est sur la scène de crime d'Élodie Kulik.
Mmh.
On trouve que ce garçon qui s'appelle Grégory Viard, on est formel, c'est lui, il sera même exhumé, le corps sera exhumé.
Ouais, il était mort quelques temps plus tard dans un accident de voiture.
De la route assez étrange, sur une ligne droite face à un camion qui transporte des betteraves. Ouais. Il quitte sa route sans raison et il percute.
Mmh.
Donc là, on est sûr que c'est lui. Et puis, l'enquête a avancé et on a une deuxième personne interpellée. Cette deuxième personne qui s'appelle Willy Bardon est aujourd'hui mis en examen pour le viol, enlèvement, le le viol et le meurtre d'Élodie Kulik.
Ouais. Il faut dire que Élodie Kulik avait appelé les secours. C'est un document évidemment bouleversant, mais très important pour les enquêteurs. On entendait en bruit de fond des voix de plusieurs personnes et certaines des personnes impliquées ont reconnu sa voix, mais la justice, comme il est de règle d'ailleurs, a considéré qu'il n'y avait pas là de règle, enfin de preuve absolue qu'il s'agissait bien de sa voix. Donc, mais il continue à être dans l'affaire, dans le dossier.
Actuellement, quoi. Il est toujours en prison. La chambre d'instruction de la cour d'appel d'Amiens a examiné son cas. Il a déposé une demande de mise en liberté. La réponse sera donnée le 18, donc très bientôt, à la fin de la semaine. Mais pour l'instant, il reste bien évidemment mis en examen dans le cadre de ce dossier.
Voilà, et on reviendra certainement un jour ensemble en espérant que les enquêteurs de la cellule et le dit Kulik qui existe encore et dont faisait partie pendant sa vie active, si j'ose dire, le capitaine de gendarmerie Thierry Fouache qu'on aura tout à l'heure au téléphone. Alors, on revient à cette année 2002 avec un premier document RTL, la première affaire après la mort d'Élodie Kulik. Nous sommes le 11 juillet 2002. Il se trouve que depuis le 7 juillet, une jeune femme a d'abord disparu mystérieusement. Le 9 juillet, on a retrouvé son corps. Et le 11 juillet, les résultats de l'autopsie de cette jeune femme, Patricia Leclerc, est formelle. La victime n'a pas été victime d'un accident, mais le mystère demeure encore total ce jour-là sur les circonstances exactes de la mort de Patricia Leclerc. Sur RTL, on entendait alors les explications d'Éléonore Pitot dans le journal de 18h.
Dès la découverte lundi du corps de Patricia, l'enquête s'est orientée vers un crime sordide. La jeune fille, retrouvée à moitié dénudée, avait visiblement été rouée de coups. Les résultats de l'autopsie rendus publics aujourd'hui confirment et aggravent ces suppositions. Selon les premiers résultats, Patricia a été écrasée par une voiture après avoir été frappée. Mais pour le procureur de Péronne, Jean-Philippe Vicentini, il est toutefois exclu que ce soit un accident de voiture. D'après les enquêteurs, le ou les meurtriers auraient emmené la jeune femme au bord du champ, peut-être pour la violer. Une violente altercation s'en est suivie et Patricia aurait été écrasée, volontairement ou non, par la voiture. La cause exacte du décès n'est pas encore connue et on ignore également si la victime a été violée. Des analyses sont en cours. En tout cas, cette affaire ressemble décidément au meurtre d'Élodie Kulik, une jeune banquière de Péronne, violée puis tuée à la mi-janvier dans le même secteur. Les deux enquêtes sont confiées à la gendarmerie de Péronne, mais pour l'instant, le procureur se refuse à établir tout lien.
Disons-le, hein, nous sommes le 11 juillet 2002 et cette affaire donc va rester un mystère pendant un certain temps et puis elle va être en quelque sorte relancée le 21 août suivant, 21 août 2002 toujours, avec la découverte du corps d'une autre jeune femme et c'est là où on va commencer à faire des rapprochements, en tout cas c'est ce que font les habitants, ceux qui lisent leur journal en se demandant si ce n'est pas le même homme qui a tué les trois jeune femme. On y revient longuement avec Georges Charrière, donc journaliste au Courrier Picard, dans un tout petit instant.
L'heure du crime sur RTL.
Alors nous retrouvons dans quelques secondes Georges Charrière, connaît bien le dossier des meurtres de cette année-là, que ce soit l'affaire Kulik l'affaire Patricia Leclerc ou encore l'affaire Christelle Dubuisson. On va en dire un mot tout de suite à travers en fait un autre document RTL qui date du 21 août donc 2002. Ce jour-là, le corps d'une autre jeune femme est donc retrouvé à Villers-Bretonneuse. C'est toujours dans le département de la Somme. La victime s'appelle donc Christelle Dubuisson, elle a 18 ans. On écoute les explications que donnait à l'antenne Franck Hanson, le correspondant d'RTL dans la région. C'était dans le journal de 22h du 21 août.
Christelle a bien été tuée comme Élodie et Patricia. L'autopsie l'a confirmé cet après-midi. La mort a été provoquée par une coupure au niveau du cou, mais il n'y a pas eu de violence sexuelle. La jeune fille de 18 ans a pu en fait être égorgée au moyen d'un objet dont on ignore la nature, selon les enquêteurs. Mais les blessures ont également pu être causées par le bloc moteur du fourgon utilitaire qui aurait écrasé la victime. La veille du drame, Christelle Dubuisson, qui vivait en foyer à Amiens, avait quitté vers 20h le domicile familial à Villers-Bretonneux pour aller acheter des cigarettes avec 2 euros en poche. Son père ne s'était pas inquiété de cette disparition. La jeune femme avait l'habitude d'aller se promener seule pour aller voir des amis au village voisin de Fouillois. En l'état actuel de l'enquête, le parquet d'Amiens se refuse toujours à faire le moindre rapprochement entre ces trois meurtres de l'Est de la Somme. Plus de 150 gendarmes ont été déployés sur les lieux pour tenter de débusquer le moindre indice. Les investigations se poursuivent également du côté de l'entreprise de travaux publics d'où provenait le fourgon. Le véhicule qui a disparu d'un entrepôt de chantier aux environs d'Arras n'avait pas été signalé volé. Les employés de la société ont commencé aujourd'hui à être interrogés par les gendarmes.
Beaucoup de gendarmes donc sur le terrain, ça on va en parler avec Thierry Fouache tout à l'heure. Mais d'abord, Georges Charrière, un mot sur ces deux victimes, Patricia Leclerc et Christelle Dubuisson. Qui sont-elles ?
Elles ont pour point commun d'être deux jeunes filles, jeunes, et qui ont vécu des situations familiales assez difficiles. Patricia Leclerc, la première, est une jeune fille qui s'est retrouvée dans les familles placées parce que ses parents étaient malheureusement incapables de l'élever, pour des tas de raisons. Et elle a, à force de volonté, elle a poursuivi des études. Et au moment où les faits se déroulent, elle travaille dans un établissement de restauration rapide. Et elle fait l'aller-retour entre le domicile de ses parents adoptifs et cet établissement, en vélo, dans l'espoir de s'acheter un cyclomoteur.
Voilà, et puis donc elle disparaît un soir après avoir quitté son travail.
Elle est rentrée en vélo, elle rentre pas le soir chez elle, c'est pas son habitude, ses parents s'inquiètent, elle donne l'alerte.
Voilà, et on retrouve donc son corps.
On va retrouver son corps derrière
deux jours plus tard.
Une meule de foin, et les gendarmes ont très vite constaté qu'elle a été victime de violence, qu'une voiture lui est passée dessus, et qu'également elle a été victime d'une agression sexuelle, c'est le moins qu'on puisse dire.
Alors donc là, disons-le tout de suite, les constatations des gendarmes excluent donc tout à fait, comme vous venez de le dire, l'accident. Ils ont quelques billes, si j'ose dire, des prélèvements, de l'ADN.
Alors, les gendarmes, à l'époque, vont geler la scène de crime, comme ça se fait à chaque fois, et puis ils vont saisir, bien évidemment, les vêtements et sous-vêtements de Patricia Leclerc. Dans un premier temps, ils n'ont pas grand-chose à part cela, si ce n'est que son vélo a disparu, vélo qu'on retrouvera plus tard parce que des gamins qui passaient sur la route ont piqué le vélo et vont arriver tout bêta après les gendarmes en disant on n'y est pour rien, on a juste piqué le vélo. Donc ça va être une porte qui va être fermée comme des gendarmes. Et puis au fil du temps, donc un laboratoire de police scientifique qui se trouve à Nantes va examiner les sous-vêtements de Patricia Leclerc et ils vont aller jusqu'à complètement découdre ce sous-vêtement. Et sur des fils, ils vont découvrir deux traces d'ADN, une trace de sang, et superposer ces traces de sang, une trace de sperme, qui va permettre de résoudre l'affaire par la suite.
Par la suite. Et alors maintenant, à propos de Christelle Dubuisson, quelle est son activité à l'époque du drame ?
Christelle Dubuisson est une gamine qui quelques temps auparavant a vécu de foyer en foyer, ses parents se sont séparés, son père vit à Villers-Bretonneux derrière un petit café-tabac qui est là dans la commune, et sa mère vit à Corbie, c'est deux communes qui sont presque voisines. Et elle a l'habitude, elle a gardé des copains sur Corbie, elle a l'habitude de faire des allers-retours à pied ou parfois en stop pour aller voir ses copains. Donc elle est calme, et puis ce jour-là elle est allée voir son père pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir aller passer un petit bout de temps avec ses copains. Et toutes ses amies que j'ai rencontrées à l'époque disent, c'est bizarre, en 6-7 mois, elle a beaucoup changé. La gamine enjouée, qui aimait bien, qui aimait beaucoup Garou, qui rêvait d'être coiffeuse, qui aimait aller voir les magasins de vêtements pour filles, a changé. Quand on l'interpelle dans la rue, elle ne répond plus. Quand on lui parle, elle répond pas. Quand un garçon s'approche d'elle, sans aucune mauvaise intention, elle peut être très violente. Elle va prendre le train sans ticket, elle va être amenée au commissariat de police d'Amiens, elle va sauter à la gorge de l'officier judiciaire qui l'interroge. Donc quelque chose de... on se demande pourquoi, et on va découvrir très vite après. Il s'est malheureusement passé des choses pas très normales avec son père.
Dans le cadre familial, voilà.
Absolument.
Des relations incestueuses, disons-le.
Absolument, contre quelques euros.
Et là, même question que pour Patricia Leclerc tout à l'heure, les constatations amènent à des prélèvements ou à des commencements de...
Ça va être un peu plus compliqué encore pour les gendarmes, puisque ce corps a découvert sous un fourgon qui a été volé dans une entreprise de transport qui est dans le Pas-de-Calais, pas très loin. Et sous ce fourgon, donc des salariés de l'entreprise qui s'appelle la Stag, qui est à côté de Villers-Bretonneux, voit ce fourgon avec le nez dans le talus qui est en bas d'une voie de chemin de fer.
Oui.
Et voit derrière ce fourgon une basket rouge.
Mmh.
Et des traces rouges sur la carrosserie qui leur paraissent un peu étranges. Ils appellent les gendarmes bougent ce fourgon.
Et c'est là qu'on
découvre le cadavre de cette gamine qui est couchée en chien de fusil, la tête vers le bas.
Et qui a été battue.
Avec une main brûlée. Et on découvre surtout aussi qu'elle a pris plusieurs coups de couteau au niveau du torse. Et on découvre également dans le champ qui est là, on découvre qu'il y a été un champ de maïs qui a été rasé, et on découvre là une grosse tache de sang.
Ouais. Et précision, elle n'a pas été violée.
Il n'y a pas d'acte d'agression sexuelle, en tout cas immédiat.
Alors vous, à l'époque, évidemment, pour le Courrier Picard, vous suivez ces affaires. Parallèlement à tout ça, il y a la psychose dont je parlais, il y a l'idée que peut-être il y a un tueur en série. Qu'est-ce que vous en pensiez, vous, à l'époque ?
À l'époque, on se pose forcément des questions. On va appeler, nous, ça le triangle maudit du Santerre, parce qu'effectivement, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas deux... C'est
Une association même de plusieurs tueurs.
On arrive sur un tueur en série.
Oui.
Donc on se pose des questions.
Pardonnez-moi, on sait depuis ce tragique appel d'Élodie Kulik, même si les affaires s'avéreront non liées les unes avec les autres, qu'il y avait pour Élodie Kulik plusieurs agresseurs.
Absolument. Élodie Kulik, on va le savoir rapidement. Et là, on ne sait pas finalement pour ce qui concerne Patricia Leclerc et Mlle Dubuisson. On ne sait pas. Mais on sait, on commence sérieusement poser des questions. Il faut savoir qu'à l'époque, dans la Somme, les jeunes filles ne sortent plus. Elles appellent les parents ou elles appellent le petit copain pour dire « je suis à tel endroit », etc. Tout. Donc, il commence effectivement à y avoir une psychose qui s'installe.
Et puis, le 26 novembre 2002, tout change là dans l'affaire parce que on apprend qu'un suspect, un homme de 36 ans, du nom de Jean-Paul Lecomte, a été interpellé à Méholt. Ça se trouve près de la ville d'Albert, dans la Somme. Il est soupçonné, on l'apprend aussi assez rapidement, d'avoir tué Patricia Leclerc au cours de l'été précédent. Et on s'aperçoit également que c'était 2 mois après être sorti de prison. Il était incarcéré pour viol. Il purgeait une peine de 18 ans. Il avait effectué 13 ans d'incarcération sur ses 18 ans. Dans la région, bien sûr, l'arrestation de cet homme, quand elle est connue, est synonyme de soulagement. Mais enfin, quand même, tout le monde a en tête les 2 autres meurtres qui restent encore inexpliqués. On va écouter ce qu'en disait sur l'antenne d'RTL Frank Hanson, qui s'était rendu sur place. Écoutez le point qu'il faisait sur l'affaire dans RTL Matin.
Même si la piste d'un tueur en série semble s'éloigner, les habitants du secteur de Péronne et Albert commençaient à s'interroger sur les avancées de l'enquête. Les meurtres de ces 3 jeunes filles, tuées dans des conditions atroces, restent présents dans tous les esprits. Et lorsqu'une voisine était venue évoquer l'affaire au domicile de Jean-Paul Lecomte, le suspect numéro 1 désormais dans l'assassinat de Patricia, celui-ci n'avait rien laissé transparaître.
J'en ai déjà parlé devant lui puisque j'y allais tous les matins. Il n'a jamais sourcillé, jamais rien. Il était très froid.
Un premier soulagement, mais encore beaucoup d'incertitudes. Car le meurtrier présumé, déjà condamné pour viol, purgeait sa peine de prison au moment de la disparition d'Élodie Kulik en janvier. Bernard, exploitant agricole près d'Albert, reste partagé.
Je ne sais pas comment il faut réagir. Il avait quand même un passé, ce garçon. Alors, assez agressif, quoi. Étant gosse, il l'était, tout ça.
Entendu comme des dizaines d'habitants du secteur cet été, Jean-Paul Lecomte, connu pour son passé judiciaire, a donc été trahi par ses empreintes ADN. Les gendarmes cherchent toujours d'éventuels complices.
Évidemment, à ce moment-là, Jean-Paul Lecomte est présumé coupable, présumé innocent, pardonnez-moi, parce qu'il nie, évidemment, farouchement. Mais ça va évoluer. Et ça, on va en parler dans un instant, après une pause, avec le capitaine de gendarmerie, Thierry Fouache. Thierry Fouache commandait, à l'époque des faits, la brigade de recherche de Péronne. Et il se trouve qu'il a été le premier enquêteur à parler avec Jean-Paul Lecomte et même à pénétrer dans sa maison. Il va nous raconter ça dans un instant et nous dire comment finalement les soupçons des enquêteurs se sont cristallisés autour de la personnalité de Jean-Paul Lecomte.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Si vous habitez cette région du département de la Somme ou de la Picardie de façon plus générale, et si vous avez des questions, des réactions, voire des témoignages à nous apporter, vous pouvez le faire bien sûr en appelant le 3210, qui est le standard téléphonique d'RTL, ou en nous envoyant des courriels sur rtl.fr. Et nous allons tout de suite prendre en ligne le capitaine de gendarmerie, Thierry Fouache. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur Bardel.
Et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation par l'intermédiaire de Georges Charrière, que vous connaissez bien, évidemment.
Oui, effectivement.
Et oui, parce que vous avez été, donc, comme je le disais tout à l'heure, vous commandiez la brigade de recherche de Péronne entre 1999 et 2005, et forcément, sur les affaires criminelles, vous deviez voir débouler Georges Charrière pour son journal.
Oui, on avait des contacts réguliers avec Georges, notamment avec depuis de nombreuses années, et surtout là en 2002 avec le meurtre d'Élodie Kilic et ensuite le meurtre de Patricia Leclerc.
Alors, on va en venir à Jean-Paul Lecomte, hein, puisque je rappelais tout à l'heure que on avait appris le 26 novembre 2002 qu'il y avait un suspect dans l'affaire, évidemment présumé innocent, mais enfin, l'enquête c'était un peu cristallisée autour de lui, et c'est vous, en fait, qui allez au contact de cet homme. C'était le premier à parler avec lui, à pénétrer chez lui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cet homme-là, vous l'aviez quelque part un peu, j'allais dire, dans le collimateur?
On reprend un petit peu la genèse des faits. Quelques jours après la découverte du corps de Patricia Leclerc, un collègue du groupe d'intervention régionale, le GIR de Picardie, nous contacte à Péronne pour nous dire: tiens, moi, il y a une quinzaine d'années, et j'ai interpellé un individu pour des faits de viol dans le même secteur géographique.
D'accord.
Cet individu avait été condamné à 17 ans de réclusion criminelle et venait de sortir du centre de détention de Bapaume en déclarant comme adresse Méholt, au domicile de sa grand-mère.
Oui, près d'Albert. Hein, donc, ouais.
Voilà. Donc il dit: c'est Jean-Paul Lecomte.
Oui, mais pardonnez-moi, cet enquêteur-là, ce gendarme, si vous parle de lui, c'est parce que quelque chose l'a frappé un peu ou est entré en résonance dans sa tête quand il a appris qu'on avait découvert le corps de Patricia Leclerc?
C'est-à-dire que pour lui, Jean-Paul Lecomte avait été donc condamné pour deux faits de viol, un viol sur majeur et un viol sur mineur, avec genre d'agression assez quand même violente, et dans le même secteur géographique. Donc lui, il s'est dit: tiens, c'est quelqu'un qui vient de sortir de maison d'arrêt, donc pourquoi pas ne pas s'intéresser à lui, quoi.
D'accord, et en plus, il se trouve que Jean-Paul Lecomte avait, à l'époque où il a été arrêté pour ses viols, est condamné, donc il avait une petite amie, je crois, qui travaillait aussi dans un organisme de restauration rapide.
Oui, c'est ça. Et même si il avait nié les faits, ses victimes l'ayant reconnu, donc il avait été condamné, c'est vrai qu'on se disait: tiens, c'est quelqu'un d'intéressant, en plus c'est un délinquant sexuel, donc ça fait partie des hypothèses de travail lorsqu'on a ce type d'affaires, quoi.
D'accord, et à ce moment-là, vous y allez comme ça, seul?
J'en discute avec le responsable de la cellule qui avait été mise en place, et je lui dis: tiens, je vais monter à Méholt, voir vérifier si effectivement l'intéressé vit bien chez sa mère, ou si il a simplement donné cette adresse en disant donc je pars seul à Méholt. Et lorsque j'arrive devant le domicile, donc il est présent, il est en train de nettoyer son véhicule Scorpio noir. Et lorsque je me dirige vers lui, en tenue, il n'est pas surpris de me voir. Donc il me dit: tiens, j'attendais votre visite. Comment ça? Il me dit: oui. Je viens de sortir de maison d'arrêt, je suis connu pour délinquant sexuel, donc je sais que systématiquement, dans ce genre d'affaires dont j'ai eu connaissance par la presse, vous allez venir me voir.
Et donc, vous lui confirmez, effectivement, et à ce moment-là, vous entrez avec lui dans la maison. J'imagine que là, vous n'avez pas, vous êtes venu vous prendre l'air, un petit peu l'air, l'atmosphère de l'endroit où il habite. Oui, on a un petit problème. Oui, allez-y, oui.
On discute quelques instants devant l'entrée de la maison, et puis j'ai dit: écoutez, j'aimerais bien qu'on puisse se rencontrer.
Oui. Alors, on a un petit souci avec la ligne téléphonique. Écoutez, on va faire une chose, on fait une pause et on reprend tout de suite après Thierry Fouache, parce que là, on a un petit souci de liaison entre la Somme et la Seine, si j'ose dire.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
On retrouve dans un instant le capitaine de gendarmerie Thierry Fouache, donc qui nous racontait comment il s'était rendu au domicile de Jean-Paul Lecomte, qui sortait donc tout juste de prison, avec quand même derrière la tête l'idée qu'il pouvait être un témoin important, comme on dit, pour cette affaire. Avant de reprendre Thierry Fouache, je voudrais qu'on entende un autre document RTL qui date du 6 décembre, hein, puisque cette rencontre c'est fin novembre. Le 6 décembre, on en apprend un peu plus sur la personnalité de Jean-Paul Lecomte. Un homme froid, dépourvu de sens moral, en tout cas selon le procès-verbal de son audition, dont Éléonore Pitot, qui est journaliste à RTL, va révéler sur notre antenne une partie du contenu dans RTL Matin.
Dans le procès-verbal d'interrogatoire, on apprend notamment que les experts psychiatres l'ont décrit comme quelqu'un dépourvu de sens moral et insensible à la souffrance des autres. Un homme qui aujourd'hui encore ne peut dormir sans médicaments. Un homme qui s'est pris de passion pour la boxe lors de son séjour en prison au contact de ses co-détenus. Interrogé sur la matraque saisie à son domicile, il affirme pourtant ne s'en être jamais servi. Mais que dire alors de cet épisode relaté dans le procès-verbal ? Soupçonné de meurtre et de viol, confronté aux photos des victimes, Jean-Paul Lecomte n'a aucun mal à fournir un échantillon de sperme. Un sang-froid révélateur de la maîtrise de cet homme qui trouve une explication à tout. Sa voiture, oui bien sûr, il mentionne aux enquêteurs un accident survenu avec sa Ford Scorpio. Son pare-choc, explique-t-il, a été abîmé. Il l'a réparé sommairement. Ce véhicule a bien sûr aujourd'hui été saisi par les enquêteurs, de même qu'un cyclomoteur et un blouson clair cité par des témoins dans le troisième meurtre de la Somme, celui de Christelle Dubuisson. Aujourd'hui, des analyses sont en cours.
Alors, on revient à vous, Thierry Fouache, vous êtes là maintenant ?
Oui.
Voilà, on avait un petit souci tout à l'heure. Donc, ce 26 novembre, quand vous sortez de cette première approche du personnage, vous pensez quoi ?
Non, le 26 novembre, c'est à l'issue de sa garde à vue. Donc, moi, la première fois que je le vois, c'est,
oui, c'est avant.
Vers la mi-juillet, quoi. Ouais.
Ah, d'accord.
Quelques jours après la découverte du corps de Patricia. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est totalement serein. Ouais. Et qui, lorsque je l'invite à m'accompagner jusqu'à la brigade d'Albert pour être entendu sur les faits, me dit, ben, ok, sans problème, écoutez, je vous demande simplement 5 minutes pour me changer, parce qu'il était en train de laver sa voiture,
ouais.
Et lui dit, je vous accompagne à la brigade d'Albert. Et d'accord. Donc là, on part à la brigade d'Albert, et il m'explique ce qu'il a fait depuis sa sortie de prison en mai, et que le soir des faits, il est allé faire un petit tour sur les fêtes locales, mais qu'il a croisé personne, qu'il a rencontré personne et qu'il est rentré vers minuit au domicile de sa grand-mère. Il pense que sa grand-mère l'a entendu rentrer, mais en tout état de cause, il connaissait pas la victime et il a eu connaissance des faits par la presse.
Et on prélève son ADN ou pas, là ?
Non, je veux dire, lors de sa première audition, on ne prélève pas son ADN pour la simple raison que on n'a toujours pas de retour. Puisque les premiers prélèvements qui avaient été réalisés lors des autopsies nous faisaient état comme quoi il n'y avait aucun ADN qui avait été découvert sur le corps de Patricia Leclerc.
D'accord.
Donc on est à des... Mais par contre, je lui pose la question en disant, bon, est-ce que vous êtes opposé à ce que si on a un ADN, je viens de vous revoir pour vous prendre un prélèvement? Et il m'a dit, aucun problème, vous aurez qu'à m'appeler et puis je viendrai à la brigade d'Albert. Voilà.
Ouais. Quelle histoire, hein. Et vous avez pu continuer l'enquête jusqu'au bout avec vos collègues ?
Oui, puisque après, donc au mois d'août, ayant connaissance, juste après le deuxième meurtre, le troisième meurtre, celui de Christelle Dubuisson, donc je le contacte par téléphone et je l'invite à venir à Albert pour qu'il soit prélevé. Mmh. Et puis il me rejoint sans aucune difficulté, on fait le prélèvement.
Ouais.
Et puis, il dit, tiens, il y a une nouvelle affaire qui vient de se dérouler. Et voilà.
Donc à cette époque, ça prend beaucoup de temps d'identifier les ADN et ensuite de les... Parce que le fichier génétique informatisé existe déjà, mais enfin, on est au début, quoi.
Voilà, c'était le début. Et les prélèvements sont envoyés, mais bon, on n'envoie pas prélèvement par prélèvement. Donc on envoie une quinzaine de prélèvements, puisqu'à cette époque, tous les gens qui étaient plus ou moins entendus dès lors qu'on avait un ADN, on les prélevait et puis c'était envoyé en analyse. Et puis ensuite, pour comparer avec la trace.
Alors, on va parler tout de suite à travers un autre document RTL qui date du 11 novembre 2003. Un rebondissement, dans l'enquête, parce que Jean-Paul Leconte a toujours nié, hein, et là on apprend que eh bien il est passé aux aveux, en tout cas il a reconnu devant le juge d'instruction avoir assisté au meurtre de Patricia en compagnie de deux autres personnes, et ce sont des écoutes effectuées au parloir de la prison qui ont permis de piéger celui qui était quand même, faut bien dire, toujours le principal suspect de l'affaire. Alors on va écouter ce qu'en disait sur RTL Jérôme Florin, et après on va vous donner des précisions avec Jean Charrière.
Les enquêteurs, en fait, ont pu enregistrer une conversation que Jean-Paul Leconte avait eue avec sa grand-mère. Dans cette conversation, il avouait qu'il était présent sur les lieux du crime et qu'il avait assisté au meurtre de Patricia Leclerc, ce qu'il avait toujours nié. Hier, il a été entendu par le juge qui l'a confronté à l'enregistrement de cette conversation-confession. Jean-Paul Leconte a donc eu du mal à nier plus longtemps, il a avoué, et il a aussi dit qu'il n'était pas tout seul, que deux autres personnes se trouvaient avec lui, sans plus de précision pour l'instant. Alors Jean-Paul Leconte, c'est quelqu'un, il faut savoir, qui a la réputation d'être peu causant, sauf avec une personne, sa grand-mère. Ces deux-là sont très proches, ils vivaient ensemble. La dame de 87 ans a toujours énergiquement défendu son petit-fils, même quand celui-ci avait été condamné à 17 ans de prison à la fin des années 80 pour une série de viols. Cette complicité a donc été fatale à Jean-Paul Leconte. Reste maintenant à déterminer son implication dans le meurtre de Patricia Leclerc et voir s'il était également présent, comme il dit, lors de l'assassinat d'une autre jeune fille tuée dans la Somme à la même époque, Christelle Dubuisson, un assassinat pour lequel il est également soupçonné.
Alors Georges Charrière, évidemment, bon, on évoque cette affaire, mais si on voulait l'évoquer dans ses moindres détails, il faudrait des heures d'émission. Il va y avoir un procès, un premier procès. Il va être condamné. Hein. Vous assistez à ce procès. Il nie toujours avoir été le meurtrier et le violeur de Patricia Leclerc. Il fait appel de sa condamnation, et là, alors là, il y a un véritable coup de tonnerre et un coup de théâtre, comme on dit, puisque à l'ouverture de ce procès en appel, le 26 mars 2007, et ça fait 5 ans donc, hein, après les faits, il reconnaît qu'il a tué la jeune femme. Vous étiez là.
Ça se passe à Beauvais, effectivement, et à un moment donné, donc le président, la présidente de la cour d'assises lui demande quelles sont ses intentions, il reconnaît les faits. Il connaît les faits au cours du procès, il va les expliquer, mais à plusieurs moments au cours de ce procès, il va y avoir des contradictions. Entre les constatations qui ont été faites par les médecins légistes et par les enquêteurs gendarmes, et la réalité. Il y a des choses qui ne vont pas. Et on sent que tout ça est pire, mais à un moment donné quand même, il va montrer, il va faire le geste, vous savez, le geste des qu'ont les commandos pour casser un coup.
Ouais.
Il va le faire dans le bloc des accusés, il va montrer. Ça va être glaçant.
J'imagine, oui.
Ça va être glaçant. Ouais. Et il va reconnaître les faits en disant, au début, alors il va raconter ses histoires de, on était plusieurs, etc. Tout, et après, il va venir finalement admettre qu'il était tout seul et qu'il n'a pas voulu avouer parce qu'il ne voulait pas faire de la peine à sa grand-mère et à sa tante. Grand-mère, auprès de laquelle, à la prison, comme c'était raconté tout à l'heure, mm-hmm. il a avoué ouais. être l'auteur.
Oui. Dans ces fameuses écoutes, écoutes du parloir.
Sonorisation du parloir. Du parloir, si
voilà. Ouais. Alors, on va faire une pause. On va retrouver ensuite, Thierry Fouache quelques instants. Et puis, on va donner la parole à maître Sandrine Makarevitz, qui est l'avocate de Jean-Paul Leconte, parce que, bien sûr, et pour cause, elle a assisté à tous les procès. Et, on va parler avec elle des moments forts, qui lui restent encore aujourd'hui de ces procès de Jean-Paul Leconte.
L'heure du crime sur RTL.
Nous sommes en compagnie de Georges Charrière, journaliste spécialiste de faits divers au Courrier Picard, qui a suivi l'ensemble des affaires qu'on évoque cet après-midi. Dans un instant, on aura maître Sandrine Makarevitz, qui fut l'avocate de Jean-Paul Leconte, en tout cas à partir de son procès en appel et de l'autre procès pour le meurtre de Christelle Dubuisson, dont nous reparlerons dans un instant. Et puis Thierry Fouache, qui était à l'époque qui commandait la brigade de recherche de Péronne. J'imagine, Thierry Fouache, que cette affaire reste dans vos souvenirs d'affaires criminelles assez haut placée.
Oui, c'est je veux dire, ça fait partie des affaires qui marquent une carrière au même titre que celle d'Élodie Kilic. Et c'est vrai que sur mes 6 années passées à Péronne, donc c'est quand même les deux affaires qui ont marqué mon passage à Péronne.
Ce qui nous frappe, ça me frappe tout autant que les auditeurs hein, qui nous en font part souvent sur RTL.fr, c'est l'extraordinaire aplomb d'un certain nombre de meurtriers qui accueillent les gendarmes ou les policiers, qui disent non, je ne connais pas, je n'ai rien fait. qu'est-ce que vous diriez de la personnalité de cet homme ?
Bah, c'est vrai que Jean-Paul Lecomte était quelqu'un qui, lorsque moi j'ai eu le premier contact avec lui, était totalement serein, je veux dire quelqu'un qui n'avait pour lui, mis à part les faits de connaissance par la presse, n'avait aucun lien avec cette affaire. Mm-hmm. Donc, qu'il était très volontaire pour nous accompagner et puis bon, s'expliquer. Et que, bon,
y compris pour donner son ADN.
Voilà, même pour donner son ADN, puisque bon, il n'avait aucune intention de se substituer, puisqu'il dit, moi, de toute façon, j'ai rien à voir là-dedans, donc il n'y a aucun souci. Dès que vous avez besoin de mon ADN, je vous le communique. D'ailleurs, bon, lorsqu'il était placé en garde à vue pour, notamment après, le 25 novembre, ensuite la découverte de son ADN sur Patricia Leclerc, il a contesté durant sa garde à vue cet ADN, puisqu'on était obligé de refaire un prélèvement au niveau de l'hôpital de Péronne, puisque pour lui, ce n'était pas son ADN, c'était quelque chose qui avait été manipulé, donc ça ne pouvait pas être lui.
Donc il y a eu une autre expertise, mais qui l'a également, accablé, en fait.
Réfuté devant le juge, et un troisième prélèvement a été réalisé
d'accord.
de nouveau. Quoi.
D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir évoqué avec nous sur RTL aujourd'hui ces souvenirs d'enquête. Merci infiniment, Thierry Fouache.
Merci, une bonne fin d'après-midi.
Bonne fin d'après-midi. Georges Charrière, un mot avant de prendre Madame Makarevitz. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez suivi l'affaire, vu le compte de très près, puisqu'il était dans le box des accusés, aux trois procès auxquels vous avez assisté. Qu'est-ce que vous diriez, vous, personnellement, de la personnalité de cet homme ?
Ce que j'ai trouvé très étonnant, Jacques, c'est que quand on entend parler ce garçon dans le box, quand on ne parle pas des faits, quelqu'un qui parle bien, qui a un vocabulaire relativement riche, qui semble relativement cultivé. Alors on va apprendre aussi que pendant un moment de sa vie, il a bien aimé les écrits d'Hitler, par exemple, aussi quand même. Mais quelqu'un, et puis on va se rendre compte qu'à des moments donnés, quand il est face à une femme, par exemple, en partie civile dans le premier procès, il y en a, ou quand il est face des contradictions, là il perd tout moyen et on sent cette espèce de violence entrée qui est prête à exploser. Puis on se demande quand même comment le petit Jean-Paul Lecomte, qui à l'école quand même, à l'école, une institut de CM2, vient raconter que faut pas lui tourner le dos parce qu'il cogne les petits. Comment ce gamin peut devenir ce qu'il a été? Et puis aussi ce point commun quand même qu'il y a entre lui et les deux victimes. C'est un gamin qui a été abandonné par ses parents, tout comme Patricia Leclerc, tout comme Christelle Dubuisson.
Alors nous allons prendre maintenant Maître Sandrine Makarevitz en ligne. Bonjour Maître.
Bonjour Monsieur Pradel.
Merci d'avoir accepté vous aussi de revenir sur cette affaire, parce que elle est très marquante à tous les niveaux, bien sûr au niveau judiciaire aussi, parce que autant il y a eu des preuves incontestables dans le premier procès, autant le second procès dont on n'a pas encore parlé, enfin je parle de l'appel du premier procès, autant le second procès dont on n'a pas encore parlé, parce que je savais que on allait en parler ensemble, a été aussi très très marquant. Qu'est-ce qui vous reste, vous, de cette défense?
Voilà, on pourrait en parler des heures, comme vous avez tout à l'heure dit à juste titre. C'est vrai que moi, j'ai trois temps forts. Hein. Le premier temps fort, c'est ma rencontre avec Jean-Paul Lecomte au parloir. Mmh. Au parloir du centre de détention de Liancourt, quand j'ai dû prendre sa défense en appel en charge.
Oui.
Donc la rencontre, ça a été quelque chose de très marquant, parce qu'on se retrouve face à un homme qui a été défendu en première instance par confrère, un ténor du barreau d'Amiens, bâtonnier Boulier. C'est vrai qu'on se dit, tiens, me voilà quelque part dans les chaussures du bâtonnier Boulier, et est-ce que je vais faire mieux que lui? Est-ce que je vais trouver là?
Et avec un dossier quand même.
Le dossier non manquant, voilà. Avec un dossier
accablant quand même. Hein.
Un dossier accablant. Et en même temps, une personne dont on ne sait pas trop comment la prendre. Hein. C'est vrai que j'avais affaire à quelqu'un qui était assez froid, qui avait une espèce de masque, très difficile d'entrer en communication avec lui. Et puis après, au fil du temps, ça s'est fait. Donc j'avais un point d'accroche.
Maître, je reviens à ce procès en appel. Donc
oui,
vous êtes son avocate. Vous êtes son avocate.
Je suis son avocate, voilà.
Il ne vous a pas prévenu de ce qu'il allait dire? Comment ça s'est passé? C'est au premier jour du procès que finalement il avoue, il dit jusqu'à présent j'ai avoué que j'étais là, j'étais présent mais j'ai rien fait, là j'avoue, oui, j'ai tué et j'étais seul.
Si vous voulez, ce que je pourrais rajouter dans les critères de quand vous qualifiez, j'ai entendu Monsieur Charrière, Monsieur Fouache indiquer que c'est quelqu'un d'intelligent, de froid, etc. Moi, je dirais qu'il est imprévisible aussi.
Ouais.
Jean-Paul Lecomte est imprévisible. Donc, je l'ai rencontré avant pour voir le dossier avec lui. Je lui avais mis quand même des éléments accablants, comme vous l'avez dit. Vous avez rappelé tout à l'heure toute l'histoire de ce dossier. Bon, je lui dis, moi, voilà, je pense que ce qui serait bien, c'est aussi de soulager la famille, hein. De Patricia Leclerc, si vous l'avez fait, dire les choses. Bon, ouais. Je repars, je ne sais pas ce qu'il va faire à l'entrée du procès, je ne savais même pas si j'allais pouvoir plaider pour lui, qu'il n'allait pas me récuser, il avait déjà récusé deux avocats.
Ouais.
Et coup de théâtre, ouverture du procès, il dit « oui, oui, c'est moi qui ai tué Patricia Leclerc ». Voilà. Donc là, forcément, c'était parti. Il fallait continuer sur cette lancée-là et puis essayer de reconstruire le crime avec des incohérences, comme l'a dit tout à l'heure Georges, sur la manière dont ça s'est passé, la manière dont il a guetté cette jeune femme et les violences qui lui ont été occasionnées.
Alors, contrairement à ses aveux en appel, il a toujours nié avoir tué Christelle Dubuisson, mais pourtant il y a eu des scènes. Georges Charrière me disait hors micro, la scène qu'il avait le plus frappé, c'est la même que celle que vous nous avez indiquée quand on a préparé l'émission ensemble.
Ouais.
Vous pouvez dire de quoi il s'agit?
Oui, tout à fait, parce que j'ai vraiment cette scène en tête, et je pense qu'on l'a tous en tête, et ça nous fait encore froid dans le dos. En fait, j'avais mon confrère Crépin qui était en partie civile, et c'est vrai que cette affaire du Buisson a duré une semaine. Je vous cache pas qu'on était fatigués, épuisés, franchement, et à la fin, Jérôme Crépin brandit le rapport d'autopsie sous le nez de Jean-Paul Lecomte et lui dit « Alors, monsieur, c'est beau, ça ?» Et effectivement, là, il y a vraiment comme une chape de plomb qui s'abat sur la cour d'assises. Ouais. Et il dit « Non, c'est vraiment pas beau. » Mais bon, c'est après, ça a été interprété. Hein. Nous, j'ai plaidé l'acquittement, mais bon, il y avait
qu'est-ce
quand même
rajoute
quelque chose.
Attendez, Georges, qu'est-ce qu'il rajoute, Georges Charrière?
Ça va très vite. Il dit « Alors, comment c'est ? » Ouais. C'est dur à voir. Oui, c'est dur à voir. C'est dur à voir et à faire. Oui, c'est dur à voir et à faire. Après, non, j'ai rien fait. Voilà ce qui se passe.
D'accord.
C'était très compliqué, mais il y a eu un moment, on a touché peut-être du doigt la vérité, oui.
Ouais. Écoutez, je vous remercie infiniment, en tout cas, Maître, parce que là aussi, que ce soit pour les gendarmes, pour les journalistes ou pour les avocats, c'est évidemment une histoire très forte.
C'est une affaire qui m'a marqué. Ouais. Hein, ça marque un avocat, comme ça a pu marquer les enquêteurs, alors qu'on en voit quand même de toutes sortes. Mais franchement, oui, c'est une affaire que je n'oublie pas.
Je vous remercie beaucoup d'avoir témoigné dans notre émission. Merci beaucoup, Georges Charrière.
Merci, Jacques.
Je renvoie vos lecteurs au courrier Picard et à vos prochaines enquêtes. Et puis, merci donc au capitaine de gendarmerie Thierry Fouache qui a accepté de revenir sur ce moment très fort de sa carrière de gendarme. L'émission est terminée. On retrouve Flavie Flamand dans quelques instants.